Alors, dans ces années 70, après avoir péniblement commencé cette décennie 70, et je le mesure à l'aune de ma présence ou de mon absence dans la Caraïbe, parce que je suis parti de Martinique en 69 et je retourne en 72 travailler ici. Et donc, je rate peu de choses, à savoir dans le parcours discographique d'Eddy Palmieri, le fameux Bamono Palmonte, bon, qui est un cri de guerre. Palmieri, on le découvre en 1973-74. Il est dit qu'il a la meilleure section rythmique de tout ce qui se fait en musique latine à New York. Même Puente ne peut pas mieux dire. D'ailleurs, quand on écoute la musique de Puente, effectivement, Puente perd du terrain par rapport à cette nouvelle génération qui arrive. Comme Machito avait perdu pied à l'époque du Bougalou, dans les années 63, 68. Donc tous ces gars-là, ils ont été obligés de faire de la culbute pour pouvoir suivre le mouvement. Parce qu'il y a le marché, il y a la radio, il y a les danseurs. Comment faire? L'Amérique, c'est un grand marché, finalement, territorialement, mais il n'y a pas encore la mondialisation telle qu'on est connue aujourd'hui, et cette capacité de prendre de l'avion à Miami ou Boston et partir jouer au Congo, en Afrique du Sud ou au Japon. Ça se faisait dans les années 50-60, on allait au Japon, mais c'était rarissime qu'on allait au Japon. Bon, maintenant, tout le monde va au Japon jouer de la musique. Bon, et donc, Palmieri, il remet les pendules à l'heure. Et en même temps, dans ces années 60, arrive un phénomène, mais qui est une suite à bas bruit, à savoir ce qu'on appelait le fameux crossover. Le crossover, c'est un arpent culturel, c'est un bouillonnement culturel où, étant donné que les États-Unis, c'est un conglomérat de communautés qui se juxtapose ou qui se superpose. Donc s'ils se superposent, ce sont les blacks qui sont tout en bas. Il n'y a pas de problème. Eh oui, les Coréens arrivent, ils sont au-dessus des blacks. Ils vont sortir, mais les blacks toujours en bas. Donc, dans ce maelstrom communautaire, il y a un échange entre les communautés. Je te laisse quelque chose, tu me donnes quelque chose. Les Juifs apportent quelque chose, les Irlandais apportent quelque chose, les Italiens apportent le bel canto, ils apportent la cuisine, mais ils apportent la mafia. Et la mafia, que va-t-elle faire? La mafia prospère dans des pays libres. La mafia aime la stabilité des pays libres et le capitalisme libéral. Ça, c'est son truc à elle. Donc, Pacheco, il va vendre son âme, son esprit à l'italo-américain Jerry Masucci. Mais qui est Jerry Masucci? Jerry Masucci, qui a été le directeur de Fania, Jerry Masucci a été un étudiant en droit à l'alma mater de La Havane dans les années 50, là où il rencontre Larry Harlow, le pianiste juif. Donc ce sont deux juifs qui se rencontrent, mais l'un est mafieux. Et en créant la Fania All-Star, bien, tous les gars, ils amènent leur directeur d'orchestre, et d'ailleurs Porto Rico, quand je dis très souvent que les Portoricains, ils seront à la fois les chevilles ouvrières du courant salsa, le bien nommé, mais aussi les victimes de ce courant, je parle à beaucoup de convaincus. Hein. Il y a beaucoup de convaincus qui. Et d'ailleurs, entre l'alcool, la drogue et le sida, Fania All-Star termine. Bon, je suis mauvaise langue. Donc, Palmieri, il va faire un crossover que je peux qualifier de à bas bruit. Tout d'abord, il va composer des morceaux comme Palao Chatambo, qui est une référence, sans jamais le dire, à une certaine idée de l'Afrique spirituelle. Et il va se rapprocher, ce faisant, de deux religions, créoles, mais deux religions afro-cubaines, à savoir la regla de Ocha. La Ocha, c'est le saint en langage Yoruba. L'une des branches des Yoruba à Cuba, comme religion. Et aussi, il va se rapprocher de la religion des Congos de Cuba. Et il va nous sortir une suite musicale de première valeur. Vous pouvez la trouver sur Internet. Oui, vous allez la trouver sur Internet. Qui s'appelle Mikongo Teyama. Avec toujours, dans ses 1980, parce qu'il va enregistrer sur la CBS, ce qui est rare, pas mieux enregistrer sur CBS, avec toujours son joueur de tumbadora fétiche, son joueur de tambour, le Cubain Francisco Correa. Et donc, Mikongo Teyama, c'est encore une suite musicale. Rien que pour embêter les danseurs, le marché, les radios. Parce que le monde aux États-Unis veut le format radio d'une durée des morceaux de 3 minutes 10, pas plus. Comme ça, il n'y a pas de solo de piano qui dure 15 minutes. Les jazzman, ils ont trop bien compris le problème. Hein. Ils n'ont fait qu'à leur tête. Si effectivement les jazzman ont composé des morceaux à l'époque de Duke Ellington qui faisaient 3 minutes aussi, mais ils ont compris que l'improvisation et la liberté du jazz, on ne pouvait pas l'enfermer dans des formats radio. Donc, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, John Coltrane, eh bien, ils ont commencé à composer des suites musicales ou des pièces musicales à l'époque du bebop et du post-bop, à l'époque où la musique progressive est rentrée, dans les années 60-70, eh nous avons encore aujourd'hui le bonheur d'écouter des pièces musicales de 20 minutes. Keith Jarrett nous a composé des pages de 22 minutes. Et nous gardons en mémoire toujours, et pour tout le temps, mais vraiment pour tout le temps, l'une des plus belles suites musicales jamais écrites, c'est Keith Jarrett qui l'écrit, en hommage à l'Holocauste juif. Et Keith Jarrett, c'est mon anneau, hein, Tisha B'Av anneau. Hein. Il a composé The Survivors Suite, ceux qui sont les survivants, et ils ont composé une suite. Et le dernier mouvement de cette suite musicale, c'est l'une des plus belles musiques que j'ai jamais entendues de ma vie. Donc je vous recommande aussi le Survivor Suite de Keith Jarrett. Et donc, Palmieri, lui, il participe à Babouy de ce fameux crossover aux États-Unis, où les musiciens juifs participent de manière effective à l'évolution de certaines formes de cette musique cubaine et latine créolisée aux États-Unis. Et l'un d'entre eux, qui est un gars qui a connu Palmieri en 1961, parce que sa photo se trouve sur le premier album de Palmieri en 1962, c'est Mark Weinstein qui jouait au trombone, qui a joué au trombone dans le morceau qui s'appelle Justicia, que nous avons entendu tout à l'heure. Et Mark Weinstein, il va, par bonheur, enregistrer aussi de la musique afro, la musique afro-cubaine, de manière très progressive en 1968. C'est un disque qui est très rarement passé à la radio. Moi, j'étais un fervent auditeur des stations de radio de Porto Rico. J'écoutais les 120 radios qu'il y avait à Porto Rico. À Porto Rico, il y avait 120 stations radio, je les écoutais toutes. Et les morceaux de l'album de Mark Weinstein appelé Cuban Roots, enregistré en 1968, les radios de Porto Rico, ils ne l'ont pas passé souvent. Hein, parce que c'est une musique, pour l'époque, bien qu'on aime le tambour, mais inaudible. Parce qu'il y a de la religion, il y a de la musique de rue, il y a le gogonco, c'est de la musique progressive. Et par bonheur, un jour, le père d'Augustin, pour lequel j'ai une pensée émue, à l'époque où il avait le Guadeloupe Jazz Club, invite les membres du Guadeloupe Jazz Club, un jour, à venir sur un paquebot, un petit paquebot, un paquebot de luxe, une certaine tenue, au port de Pointe-à-Pitre, pour faire une visite. Et qui avait sous le paquebot Armando Correa, qu'on appelle Chic Correa. Et quand j'arrive devant Chic Correa, la première chose que je lui dis, nom de Dieu, Chic Correa, Chic, comment tu t'es trouvé en 1968 en train d'enregistrer avec Mark Weinstein, Cuban Roots? Il me dit, mais ça s'est fait comme ça. Tout simplement, des musiciens qui se connaissaient. Chick Corea, il a le sang latin. Quand on écoute la fiesta, ben, c'est lui, hein, la fiesta, on fait la fête. On fait la fête. Et donc, Chick Corea fait partie de la distribution de ce fameux album Cuban Roots de 1968. Qui d'ailleurs, quelque part, annonçait les années 70.